Bonsoir à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La saison de Ligue 1 est enfin terminée, mais Cop Nord est toujours là et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale d'une heure. On parlera de toute cette saison. Mais ce soir, eh bien, on va revenir avec nos invités du jour sur les matchs de ce week-end et on en parle avec nos supporters en plateau. Bonsoir, côté Lillois, François Stock et Patrice Clairaut.
Bonsoir.
Et
bonsoir.
Du côté Lensois, les frères Simon et Alexandre Vianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu, on a fait appel aux anciens de l'émission Cop Nord. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Et au sommaire, ce soir, Lille qui a donc gâché la fête à 3. Un nul, un partout. Des Dogs qui termine finalement 5e derrière Rennes. Un match frustrant à l'image de la saison où les hommes de Paulo Fonseca auraient peut-être pu ou dû faire plus. Une 5e place qui reste tout de même européenne, qui répond donc aux attentes des dirigeants. Lille 5e avec toutes les complexités de la saison. Est-ce pour vous un bon résultat? Ce sera notre débat ce soir. Enfin, en revanche, la saison du Racing Club de Lens, elle, fait l'unanimité. Jusque tard dans la nuit, les supporters de Bollarton ont fêté leur héros qui s'était imposé 3-1 à Auxerre quelques heures plus tôt. Lens 2e termine à un petit point du PSG. Vous pouvez vous aussi participer au débat de ce soir. On se donne rendez-vous notamment sur Twitter avec le hashtag CopNord. On attend vos messages. Et on commence donc avec ce match nul frustrant pour le LOSC. Résumé de la rencontre avec Amina Hamoum.
Le LOSC avait son destin entre ses mains lors de la dernière journée de Ligue 1, mais a tout gâché à 3. L'ouverture du score est signée Bafodé Diakité à la 52e minute d'une reprise du pied gauche. L'attaquant croit délivrer ses coéquipiers. Mais 20 minutes plus tard, Ronny Lopez, l'ancien Lillois, égalise pour les Troyens, déjà relégués en Ligue 2, match nul un partout. Quatrième avant cette rencontre, synonyme de qualification directe à la Ligue Europa. Le LOSC se fait passer devant par Rennes, vainqueur à Brest. Ce sera donc la Ligue Europa Conférence pour les Nordistes la saison prochaine.
Et comme souvent cette année, des Lillois qui ont fait face à une équipe très regroupée. Ils ont longtemps eu le ballon dans les pieds, 66% de possession, 18 tirs dans cette cadrée, mais ce qui n'a donc pas suffi à repartir de l'aube avec les 3 points. Top et flop de cette rencontre, très rapidement. Patrice, François, votre top?
Diakité.
Angel Gomez.
Diakité, moi.
Diakité
aussi, ouais.
Diakité aussi, forcément le buteur de cette rencontre. C'est ça que vous retenez, c'est qu'au final, son but a longtemps amené Lille presque en Ligue Europa.
Il n'y a pas que le but, il a aussi tout l'investissement qu'il a eu sur le terrain. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, il ne faut pas oublier qu'il vient de Ligue 2. Et moi, je trouve qu'il a fait une très très bonne saison, c'est pour la saison aussi qu'il fait. Et on voit que sur ce match-là, il y avait de l'envie, en tout cas chez lui, il y avait vraiment de l'envie d'y aller. Et il marque effectivement ce but-là, mais tout le reste, il était parfait.
Et donc, Angel Gomez, deux poteaux pour lui, là encore un peu à l'image de la saison, beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts qui au final ne payent pas.
C'est un top d'encouragement effectivement, beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives. C'est vrai qu'on se plaint souvent que les Lillois avaient du mal à tirer au but. Lui, il tire au but, il n'a pas eu la réussite, mais donc il mérite ce top d'encouragement.
Et ton flop alors, François?
Mon flop, je dirais éventuellement Gudmundsson sur le côté, qui est sorti assez vite.
Jonathan David.
David aussi.
David également. Merci.
David également.
J'ai choisi Patrice.
Justement, c'est bien, ça nous rapportera un peu de débat. D'abord, pourquoi David? C'est le manque d'apport offensif, encore une fois.
Ouais, moi je trouve, en fait, c'est un peu pour Diakité, c'est un peu aussi l'accumulation de points positifs. Moi, je trouve que David, depuis pas mal de matchs, n'est pas décisif, même s'il met les pénalties importants. Donc ça c'est un fait. Mais voilà, et je trouve qu'il pèse beaucoup moins qu'en début de saison. Et sur des matchs importants comme ça, les top players, ils doivent être présents. Et là, il ne l'a pas été, je trouve.
Donc, avis partagé par Patrice.
En plus, on est rentré. Quand on parlait de top players, effectivement, c'est ça. Puisqu'on se dit qu'il est entre 40 et 60 millions dans un club européen. Normalement, dans le Money Time, ça fait 5-6 matchs qu'il aurait dû faire la différence. Quand on a un attaquant qui vaut ce prix-là et qui est quasiment dans le deuxième ou troisième meilleur buteur du championnat, on l'attend sur un match comme à 3 pour aller faire la différence et aller chercher l'Europe.
Finalement, manque d'expérience aussi pour Gudmundsson. C'est lui que tu incrimines un peu sur le but?
Sur le but, mais c'est surtout globalement son apport défensif et offensif n'était pas le même qu'habituellement. Se faire sortir par Fonseca à la mi-temps, c'est un signe. Souvent, il a tendance à garder les joueurs un peu plus longtemps, donc ça voulait dire qu'il avait besoin d'un apport supplémentaire et donc de faire entrer Timothy Weah.
Ce manque d'expérience un peu de tout le groupe lillois qui a payé sur cette rencontre, c'est ça qui a pu jouer sur ce match nul.
Moi, je trouve que c'est l'approche du match qui a été. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont limite trop fêté la victoire contre Nantes, qui était peut-être pour eux, c'était. Enfin, on avait l'impression, et moi, qu'ils étaient peut-être un peu arrivés trop trop vite. Quoi. Ils se sont dit, bon, allez, 3, ça va être une formalité, etc. Et j'ai trouvé, justement, Diakité, c'était le seul joueur où je trouvais qu'il mettait de l'engagement, qu'il avait l'envie, etc. Et les autres, c'était peut-être trop en.
Bah, manque d'envie. Hein.
Ouais, peut-être. Je sais pas, ils sont peut-être vus arriver.
Un peu trop vite, trop facile, peut-être à 3.
Alors, il y a ça, mais moi, je rejoins François sur les tirs de loin. Parce que les trois actions dangereuses, c'est les deux frappes de Gomez et la frappe de Zegrova.
Les deux annulés aussi.
Ouais, et il y a aussi Zegrova, pardon, qui met une belle frappe à la fin. On tire pas. Ça joue. On a fois, on a l'impression quand on regarde quand on est deux au but, on regarde, on se dit que ça tourne, ça passe à droite. Ça fait un peu équipe de jeu de handball un peu. Ouais. Ça tourne. Il y a personne prend sa chance et puis devant ça, comme ça bouge pas. On parlait de David. David fait pas bouger les.
Mais lignes, est-ce que tu penses pas qu'ils ont joué comme ça justement parce qu'ils menaient 1-0 et du coup ils se sont dit bon on doit tenir le score. On est contre 3 qui est relégué.
C'est un jeu qu'on a beaucoup alors, vu cette saison.
Alors c'est ça.
Et sur ce match-là,
je serais hyper inquiet si on se dit que quand t'es à 3 que t'es en Europa League 3 qui est avant-dernier, qui a pas gagné en 2023, si tu te dis que tu viens là, quand tu mènes à 0, que tu commences à avoir peur et que t'es là pour tenir le match, c'est très inquiétant et finalement on est à notre place. Quoi.
C'est symptomatique de tout ce qui se passe depuis le début de saison. On a un potentiel de jeu a priori intéressant, mais on est extrêmement inefficace derrière, on l'a vu sur le but encaissé, et devant, on l'a vu par les absences d'occasion, malgré 18 tirs, malgré 7 cadrés, c'est ça, je dis pas de bêtises.
C'est ça, 18 tirs dans 7 cadrés.
Alors c'est vrai, il y a eu deux poteaux, il y a eu deux buts refusés pour des hors-jeux limite, mais il y a hors-jeu, donc il n'y a pas de débat. Mais il y a eu donc deux poteaux, je crois que ça fait 18 depuis le début de saison. Si on utilise plus que la moitié, c'est pas la saison.
Justement, on parle de la saison, il y a des statistiques aussi assez intéressantes. Si on regarde juste la phase retour, Lille, c'est 7 points pris sur 12 contre les 4 premiers du classement et 5 seulement sur 12 contre les 4 relégués. Et même pire, en 2023, donc plus que la phase retour, le bilan du LOSC à l'extérieur en Ligue 1, c'est 2 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils sont là finalement, peut-être déjà le point, voire les points qui manquent à la fin de l'année.
Ah bah quand on attaque à 5 derniers déplacements, qu'on commence à Angers par une défaite, qu'ensuite on a eu 3, on n'a pas gagné non plus, à Auxerre on gagne pas, on perd à Reims et à Monaco, c'est-à-dire que sur 15 points, on en a pris 3, dont 3 relégables sur les 5 matchs. Voilà, là, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin la différence. Angers n'avait pas gagné depuis l'année d'avant.
Et 3, c'est 13 3, défaites et 6 voilà, nuls sur la phase retour.
Et on avec, a tout perdu là.
Et avec à chaque fois des supporters, notamment, il y avait 3000 Lillois, donc tu l'as dit, qui étaient du déplacement. Tu as fait partie de ce cortège. Comment ça s'est passé? On voit les photos, c'était très impressionnant. Hein, toute une tribune en rouge. C'est pas arrivé souvent, c'est déjà arrivé même d'ailleurs une fois.
Alors en Ligue 1, moi j'ai pas souvenir sur un match, j'ai un souvenir sur au Stade de France quand c'était Lyon, mais c'est nous qui les recevions. Après sur des matchs de finale de coupe, mais j'ai pas souvenir d'un déplacement de 3000 comme ça sur de la Ligue 1.
Et les Troyens sont cool pour ça, ils sont hyper accueillants.
Il y
a eu deux fan zones en réalité qui ont été créées, les deux fan zones se sont retrouvées. On a fait le cortège, ça s'est passé vraiment bon enfant. Et on a prouvé qu'on pouvait déplacer 3000 personnes, même s'il y avait des arrêtés préfectoraux à droite, à gauche, il y en avait un peu partout. Voilà. Mais on arrive à déplacer 3 ou 4000 personnes sans qu'il y ait d'incident notable et qu'on est des supporters, on n'est pas là pour tout casser.
Et juste un point, donc, si on regarde le classement, Lille termine 5e. Est-ce que pour vous, juste en répondant par oui ou par non, c'est une bonne fin de saison, Patrice?
Frustrante.
C'est pas par oui ou par non.
Ah pardon, c'est non.
Non. François ?
Oui, c'était l'objectif.
Oui. Simon, Alexandre ?
Oui.
Oui.
C'est compliqué un mot.
Mais
non.
Oui.
Non, du coup.
Et de toute façon, on va forcément revenir à Dieu. Pourquoi ? Pourtant, Lille européen, c'était un des objectifs. Et entre les blessures, le manque de réussite, on parlait du nombre de poteaux, ça reste une bonne place pour une première année avec Paulo Fonseca.
C'est une bonne place, mais... La question, c'était est-ce que c'est une bonne fin de saison ? Et je trouve qu'ils n'ont pas fait une bonne fin de saison.
Est-ce que c'est le bon bilan ? Est-ce que Lille est à sa place en étant cinquième, si vous voulez que je repose
la question ? Ah oui,
on peut se permettre.
En fait, déjà, moi, ce qu'on se disait un peu avant l'émission, c'est qu'en France, on ne peut pas dire, vu nos résultats en compétition européenne, il n'y a aucune Coupe d'Europe qui n'est pas au niveau d'un club de Ligue 1. Je pense que voilà, ça, c'est une bonne compète. Je trouve que Lille peut clairement aller loin sur la Conference League, mais c'est plus que quand tu commences le match en étant quatrième, que tu vas à 3, que tu as clairement ton destin entre les mains, il suffit de gagner contre un club qui est déjà relégué, qu'il n'y a plus rien à jouer. C'est là où je dis qu'en fait, c'est pas une bonne fin de saison, parce que c'est pas comme si tu allais chercher un point contre une équipe qui joue encore l'Europe. S'ils avaient fait un partout contre Rennes et qu'ils finissaient cinquième, c'était un bon résultat. Là, tu perds des points avec moins 3. Quoi.
François, toi, ça te va ?
Oui, parce que la saison a été compliquée. On le disait tout à l'heure, hein, l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous.
Ça se travaille, c'est le rôle
oui,
de l'équipe.
Oui, bien sûr, mais ça se travaille peut-être sur pas un terme aussi court. Oui. On a eu la chance, effectivement, d'avoir d'autres équipes qui avaient les mêmes difficultés que nous, Monaco. Exactement. Rennes, Lyon ont eu des fortunes diverses durant ce championnat. Donc c'est un peu une course à la lenteur pour cette fameuse 5e et 4e place. Au final, c'est peut-être les moins irréguliers qui ont remporté le jackpot. Rennes en Europa League, Lille en conférence, ça ne me choque pas plus que ça. En tout cas, l'objectif, c'était d'être européen, donc c'est une marche supplémentaire. Et normalement, avec Fonseca, on pourra construire le LOSC sur cette base-là.
Le Fonseca qui a déjà annoncé sur son compte Instagram tout à l'heure, qui a mis un message assez rassurant, expliquant que de toute façon il avait prévu de rester l'année prochaine. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs Lucas Chevalier sur cette 5e place, qui au final, on entendait beaucoup de frustration à la fin de la rencontre, mais il n'est pas si déçu que ça. Écoutez.
Dans le fond, c'est logique et je pense qu'on savourera plus cette 5e place, je pense, d'ici un ou deux jours à tête reposée. Là, forcément, un peu de frustration parce qu'on se dit que potentiellement on aurait pu plus aujourd'hui, mais au vu de la saison, de ce qui s'est passé, des événements, des points qu'on a lâchés, du manque d'efficacité, les absences tout court qu'on a eu de cette saison, ça reste une saison, une belle saison avec l'Europe, avec un nouveau projet, un nouveau coach, des nouveaux joueurs très jeunes.
Alors on va aller donner quelques infos de nos confrères d'RMC Sport. La saison prochaine, Lille en conférence Ligue, peut-être l'Europa League si Toulouse, qui appartient au même fonds d'investissement que l'AC Milan, ne peut pas s'inscrire. À ce moment-là, Lille remonterait, mais là il y a très peu d'espoir. À noter aussi quelques infos Mercato. Jonathan Bamba et José Fonte sont en fin de contrat, ça on le savait. Pour le Portugais, il y a une discussion qui doit avoir lieu avec Olivier Létan. André Gomes retourne à Everton, fin de prêt pour lui. Jonathan David est sur le départ, une cote qui tourne autour de 50 millions d'euros. On devrait le voir partir probablement en Première Ligue. Et puis la reprise pour les Lillois, elle se fera le 7 juillet. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails à vous donner. Cette question, donc, on l'a dit, probablement la Ligue Europa Conférence. La question, c'est pour faire quoi? Puisque le tirage au sort, c'est le 7 août. Il y a deux matchs qui arrivent, c'est un barrage aller-retour, le 24 et 31 août, soit juste avant la fin du mercato. Pour vous, est-ce que Lille doit forcément se renforcer avec le risque de ne pas jouer l'Europe et d'avoir un effectif trop fourni, donc difficile à gérer?
Alors moi, je pense qu'il n'y a pas la même vision de se dire que c'est la conférence. Entre guillemets, c'est pas que la conférence Ligue, mais c'est la conférence Ligue. Je pense que ça influence moins le mercato sur les joueurs que si on avait été, par exemple, sur un barrage d'Europa League. Parce qu'on sait qu'elle est plus glorieuse, entre guillemets. Donc je pense que l'effectif, il va être construit pour le championnat. Les barrages, c'est le 24 et le 31 août de mémoire. Et de toute façon, le 31 août, c'est bouclé au soir.
Mais il restera une heure ou deux après le match.
Voilà. Pour moi, je pense qu'ils vont pas. Après, je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils vont pas établir le mercato obligatoirement sur la Conference League. Et d'ailleurs, quand on lit ce qu'a dit Fonseca tout à l'heure, c'est la première étape. C'est un peu quelque part. Il dit je fais la première brique de ce que je veux faire par la suite. Et je pense que le championnat, il va nous ressortir là-dessus. Quoi.
Oui, en gros, il valide une bonne saison avec cette 5e place. Et je pense qu'ils doivent réfléchir à leur mercato juste pour finir à une place plus haute l'année prochaine et prendre cette Conference League plus. Ligue, pardon, comme un bonus.
Une année d'encouragement.
Le mercato doit servir de bonifier le groupe en nombre, d'éviter ce qu'on a connu cette année, finalement, avec un groupe qui, malgré les postes doublés, est assez pauvre sur certains postes. Donc, il y aura des retours, il y aura des retours de prêts, il y aura des opportunités. Mais c'est vrai que la qualification en poule de Conference League n'est pas un élément qui est fondamental, en tout cas, à mon sens, pour la constitution du groupe.
Et puis, juste une dernière image avant une courte page de pub, celle de Bourakilmaz qui a annoncé aujourd'hui prendre sa retraite. Un petit mot sympa publié sur les réseaux sociaux du club. Forcément, la légende, hein, le Kral, qu'on n'oublie pas, surtout côté Lensois, la dédicace, elle est passée. On se quitte quelques instants, une courte page de pub et on parlera maintenant donc du Racing Club de Lens. A tout de suite. Il se passe toujours plein de choses sur Cop Nord, pendant les pages de pub en tout cas. On va maintenant parler de Lens, la victoire 3-1 à Auxerre, résumé de la rencontre avec Simon Persitz.
Les Sang et Or bouclent leur saison dans la joie et la bonne humeur en déplacement sur la pelouse d'Auxerre qui lutte pour sa survie. Le RC Lens a tenu son rang. Un succès 3-1 en terre bourguignonne grâce à un doublé d'Alexis Claude Maurice Et au 21e but de la saison de Loïs Openda, les Lensois terminent dauphin du PSG avec un petit point de retard.
Là, il est pas mal. Un match au final, il est pas mal. Hein. Un match plutôt très équilibré entre les deux équipes, du moins sur le papier au niveau des statistiques. 50% de possession des deux côtés, 15 tirs à 17 et 7 cadrés pour les Lensois contre 5 côtés auxerrois. Il est pas mal. Tu parlais de qui de ton top, Patrice ?
Non, on parlait du gardien d'Auxerre.
On parlait du gardien d'Auxerre, donc il sera pas dans ton top ni dans ton flop. Du coup, je me tourne vers vous. Simon, ton top ?
Thomasson.
Openda.
Thomasson
aussi, évidemment. Du coup, Thomasson, pour là aussi, un nouveau match où il apporte beaucoup sur le milieu de terrain.
Bah, en plus, en soi, il a repris poste pour poste la place de Fofana, du coup, à côté d'Abdoul Samed, donc un poste qu'il n'avait pas forcément eu. Et encore une fois, il était présent en défense, présent devant. C'est lui qui fait la passe D, la longue, sur le deuxième but de Claude Maurice. Ultra efficace, une activité... Enfin, assez folle, moi, encore une fois, c'est surtout, on a l'impression qu'il est là depuis des années, quoi, alors qu'il est arrivé au mercato d'hiver. Donc,
Est-ce que tu as réussi à avoir un flop sur ce match ? Je sais que c'est pas forcément facile non plus.
Ouais, non, bah, on peut faire une dédicace à Jean-Louis Léca quand même.
Ah bah, il s'est fait sa dédicace tout
mais
seul.
Mais c'est plus un gag, parce que deux minutes après, il fait un arrêt de ouf. Donc,
il en a fait plusieurs, ouais, plusieurs parades
donc,
à son
ouais,
actif.
Non, pas vraiment de flop.
Openda en top, moi.
Openda en
et
top.
Et en flop, bah ouais.
Léca quand même. Jean-Loup.
Ah, je ne veux pas résister à Jean-Loup, effectivement, sur son action, ça mérite bien un flop.
Obligé.
Jean-Loup.
Oh, Jean-Loup aussi. Voilà, donc, sur le moment, mot pour mot, c'est beau. Surtout que, donc, sur cette rencontre, si on parle un peu du match quand même, beaucoup de changements dans le 11 de départ. Hein. Pas de Samba, pas de Medina, pas de Fofana, pas de Sotoka. Et au final, les remplaçants sont au niveau parce qu'en face, Auxerre avait beaucoup à jouer. Ça vous a plu de voir ce groupe bouger ?
Ouais, alors après, moi, j'ai trouvé qu'Auxerre a un peu joué avec la peur au ventre. Ils n'ont pas été très, très dangereux. On n'a pas senti une équipe qui se battait pour sa survie. Après, Lens, ça a été hyper sérieux. Mais on a eu du temps pour construire nos actions. On n'était pas non plus pressés. Ils ne nous ont pas pris à la gorge. On a senti un peu une équipe auxerroise qui nous regardait, je trouve. Et puis, je crois qu'à Auxerre, il y a énormément de joueurs en prêt. Donc à voir si ces joueurs-là, eux, savent qu'ils vont rester dans un club de première division l'année prochaine, est-ce qu'ils étaient vraiment concernés ?
Ouais, et puis dès le début du match, on a eu 2-3 occasions. Là, pour le coup, le gardien auxerrois, il fait 2 très beaux arrêts. Puis après, on marque vite le 1-0. Et puis en plus, on a senti... on sentait bien que le stade savait que Nantes... Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment-là, du moins, devant la télé, qu'il y a eu le 1-0 de Lens, le 1-0 de Nantes. Ils se sont dit, waouh, il y a eu un.
Il y a un tournant aussi, c'est qu'Auxerre est à deux doigts de revenir à 2-2. Et sur le contre, on met 3-1 et terminé. Ouais.
S'il faut juste rapidement parler de cette saison qui se termine donc parfaitement bien pour vous, c'est Franck Cazin qui dit que cette saison elle est réussie à 100%. Si on avait dit qu'on finissait à un point du PSG, puisque c'est donc ce qui arrive au classement, il aurait pris la personne pour un fou. La fin de saison incroyable avec aussi un événement à Bollard, hein, un stade rempli avec juste des écrans face à eux. Une vraie fête avec l'accueil des joueurs. Là, il est 3h du matin. Il y a encore 10 000 personnes à peu près qui ont attendu. Alors, vous y étiez pas, mais vous avez des gens, vous connaissez des gens qui y étaient et qui vous ont raconté qu'effectivement, grosse ambiance.
Ouais, c'est. Enfin, moi, honnêtement, ça fait un peu bateau de dire ça, mais j'ai plus trop les mots. Il faut juste kiffer cette saison parce que faut aussi avoir les pieds sur terre. Je pense pas que ça arrivera tous les ans. Et c'est ouf, hein, le club, moi je pense qu'on peut aussi mettre un gros coup de chapeau à la com du club qui a juste été parfaite cette année. Moi, c'est une équipe qui est à l'image du club, qui est à l'image. Là, on a tous le cœur serré de se dire qu'il y en a un qui peut partir à tout moment. Et c'était juste une saison de ouf.
Bon, on est limite très déçus que ce soit fini, quoi. Parce qu'on est bien conscient que.
Mais ça reviendra très vite évidemment pour parler du Racing Club de Lens. Cette soirée elle était magique aussi pour Adrien Thomasson, on en parlait il y a quelques instants, il a été plébiscité dans les tops. On peut l'écouter, lui aussi a vécu un moment hors du temps.
Pour en profiter, peut-être que ça se reproduira plus jamais, donc là on est en train de kiffer et je pense qu'on va s'en souvenir pour longtemps. Ouais.
Ah, c'est une fierté vraiment quand vous retrouvez ici à 4h du matin, il y a encore 10 000 spectateurs. Le stade avait fait guichet fermé alors qu'on était à Auxerre. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel ce club.
On parle aussi d'une saison exceptionnelle et d'un groupe qui vit plutôt bien puisque là ils sont tous partis à Marbella en Espagne où donc on a pu joindre Franquès tout à l'heure en visio. C'était un peu compliqué, il y a très peu de réseau à Marbella. Voilà, si vous avez prévu d'y aller en vacances cet été, prenez un galet 4G. Quelques statistiques, 11 victoires en 12 matchs quand même pour Lens, série incroyable, 15 clean sheets en tout, meilleure défense de Ligue 1, 4e attaque de Ligue 1, 84 points, c'est 22 de plus que l'an passé, c'est le plus haut total pour un club du Nord en Ligue 1. record qui devrait tenir longtemps, puisque donc la Ligue 1 repasse à 18 clubs, donc forcément Lens devrait être tranquille un moment. Un autre record qui est tombé officiellement, celui de Loïs Openda, 21 buts pour lui, mais malheureusement on ne sait pas s'il sera là l'année prochaine. Explication avec Hamza Rahmani.
Une saison et puis s'en va. Après 12 mois prolifiques sous le maillot lensois, Loïs Openda pourrait quitter le club sang et or. L'international belge a trouvé un accord avec le club allemand de Leipzig pour un contrat longue durée. Reste aux deux clubs désormais de s'entendre autour du prix de vente. Selon nos informations, le Racing Club de Lens a déjà refusé une offre de 30 millions d'euros pour le buteur aux 21 buts cette saison.
Et une autre info mercato de nos confrères de RMC Sport, Alexis Claude Maurice qui a marqué 5 buts. Il est prêté sans option d'achat par Nice, mais il pourrait finalement rester dans le Nord. Un mot aussi de la reprise, le staff reprendra le 29 juin, les joueurs vont faire des tests le 30 juin et 1er juillet, l'entraînement reprend le 3 juillet, les internationaux, eux, reviendront le 10, un stage en Savoie du 17 au 23 juillet, et il y a encore tous les matchs amicaux à Calais dans toute cette affaire. Un été donc qui s'annonce mouvementé pour vous et qui a déjà commencé sur les chapeaux de roue. Va falloir être patient.
C'est prix de la réussite, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, on s'y attendait, mais c'est sûr que...
Si vite.
Ouais, c'est ça. Après, encore une fois, moi, je pars toujours du principe que personne n'est irremplaçable. Évidemment, il y a des joueurs un peu plus durs à remplacer, mais...
Est-ce qu'il y a des irremplaçables, d'ailleurs, pour vous ? Alors, pas forcément d'irremplaçables. Est-ce qu'il y a des joueurs à garder à tout prix ?
Bah, c'est pas pareil. Moi, le terme joueur à garder à tout prix, à partir du moment où le joueur veut partir, il faut juste faire en sorte de bien le vendre, après. Pour moi. Après, c'est très personnel, mais garder un joueur qui veut partir, c'est jamais gage d'une bonne saison derrière.
C'est combien un prix pour Loïs Openda ?
150 millions.
Non, mais il faut garder la philosophie de jeu, ce qu'on fait depuis 3 ans avec Franquès. Il faut que les joueurs qui viennent pour le remplacer s'inscrivent dans notre système. Vraiment que Franquès y reste, surtout.
Voilà, c'est au moins lui à consolider.
Quand on a perdu Klaus, on était tous en panique. Et puis au bout du compte, Frankowski a fait une saison de ouf. Et Jimmy Cabot était très bon avant d'être blessé. Et
Abdoul Samed a remplacé Doucouré.
Ouais, voilà, enfin je veux dire, c'est.
Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du club de l'année à Crystal Palace. Donc voilà, lui aussi a bien réussi à traverser la Manche. On jette un dernier coup d'œil au classement comme chaque semaine, ça y est. Le verdict est finalement Lens qui termine deuxième avec 84 points, une seule longueur du PSG. Lille est cinquième avec 67 points. Un mot aussi du classement des buteurs, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup regardé cette saison. Jonathan David, troisième avec 24 pions, juste devant Loïs Openda et ses 21 unités. Et pour les passeurs, Rémi Cabella, quatrième avec 10 passes et Florian Sotoka est sixième avec 8 galettes. La Ligue 1, elle fera son retour le week-end du 12 et 13 août, on a évidemment hâte d'y être. Et le verdict est proche dans plein d'autres sports de la région. Réponse tout de suite avec Julie Gallap.
Mission maintien accomplie pour Valenciennes, battue à Saint-Etienne lors de l'ultime journée. Les nordistes sont tout de même parvenus à conserver leur place en Ligue 2. Ils ont pourtant concédé à Geoffroy Guichard leur 13e défaite de la saison. Des buts signés Jean-Philippe Crasso et Kader Bamba côté stéphanois, 2-0. Le VAFC termine la saison à la 15e place avec 2 points d'avance sur Odez, premier relégué. Kristina Mladenovic s'arrête dès le 2e tour du double à Roland-Garros. La Française associée à la Chinoise Shuai Zheng ne conservera donc pas son titre glané avec Caroline Garcia lors de la dernière édition. Elles ont été dominées 6-1, 6-4 ce dimanche par la paire Xinyu Wang, Su Weixie. La dernière tricolore encore engagée dans le tableau principal en simple s'est elle aussi inclinée. Océane Dodin a logiquement subi la loi de 11 jabeurs au 2e tour. La nordiste, 122e joueuse mondiale, n'a rien pu faire face à la Tunisienne, classée 7e à la WTA. Défaite 6-2, 6-3 en à peine 1h11 de jeu.
C'est toujours trop court, c'est Cop Nord. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour la plupart d'entre vous. Semaine édition exceptionnelle, la semaine prochaine, 1h de Cop Nord. Rendez-vous donc lundi. Bonne semaine, salut.